Le journal Thomas Cluzel, bonjour à vous.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron n'abandonnera ni ne dénaturera le projet de réforme des retraites, mais des modifications pourront y être apportées à la lumière des discussions prévues aujourd'hui avec les syndicats. Voilà ce qu'on a appris ce matin de l'Élysée au lendemain d'une troisième journée de manifestation et à la veille d'une nouvelle mobilisation. De son côté, le nouveau secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, a lui affirmé ce matin qu'il s'inscrirait dans la continuité de son prédécesseur, Jean-Paul Delevoye, afin, je cite, de poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Patrick Mignola, député de Savoie et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale.
Dans votre journal également, Patrick et Isabelle Balkany étaient de nouveau jugés en appel ce matin pour fraude fiscale.
Oui, et l'accusation a requis à nouveau 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate contre le maire de Levallois-Perret et 4 ans dont 2 avec sursis contre son épouse.
En route vers un nouveau géant mondial de l'automobile.
Ce matin, les constructeurs français PSA, italo-américain Fiat Chrysler ont annoncé la signature de leur contrat de mariage pour former le numéro 4 d'un secteur en pleine mutation. Enfin, si les incendies qui ravagent depuis plusieurs mois l'Australie ont déjà poussé nombre d'habitants à manifester contre la passivité du gouvernement conservateur dans la lutte contre le réchauffement climatique, les chiffres publiés hier devraient encore leur donner raison. La journée de mardi a été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés avec une moyenne nationale à plus de 40 degrés. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le travail a-t-il encore un sens? Comment en revenir ou en venir à un travail réellement humain? Quels sont les défis qui se posent aujourd'hui au travail? Si on pense à l'avenir, on posera toutes ces questions à notre invité, le juriste Alain Supiot, à l'occasion de la parution d'un court essai « Le travail n'est pas une marchandise » et dans le cadre de cette journée spéciale sur France Culture, intitulée « En raison d'un mouvement social ».
Merci et à tout à l'heure. On imagine qu'ils ne devaient pas être très nombreux à se presser pour aller au casse-pipe. Et c'est donc un quasi-novice en politique, du moins jusqu'à son adhésion à En Marche en 2016, puis son élection en tant que député du Nord l'année suivante, Laurent Pietraszewski, qui s'est vu confier hier soir la tâche que l'on qualifiera d'épineuse de défendre la réforme des retraites en plein mouvement de grève et de manifestation d'une ampleur inédite depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Sans compter que celui que d'aucuns ont déjà rebaptisé Pietra n'aura guère eu le temps de s'habituer à son nouveau costume de secrétaire d'État, puisqu'à peine effectué la passation de pouvoir ce matin, il a aussitôt été appelé à rejoindre la table du fameux Conseil des ministres avant une après-midi de discussion marathon prévue avec les partenaires sociaux. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors en réalité, Laurent Pietraszewski n'est pas arrivé là par hasard, puisqu'il était même pressenti comme l'un des potentiels successeurs de Jean-Paul Delevoye, bien avant que celui-ci ne décide de démissionner. Il est par ailleurs considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs connaisseurs du dossier retraite dans la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, après avoir été déjà en 2017 le rapporteur du projet de loi sur la réforme du Code du Travail, il était à nouveau destiné à devenir celui du texte sur la réforme des retraites au Palais Bourbon.
Et ce qui marque dans le parcours de Laurent Pietraszewski, c'est son ascension rapide en politique, pour ne pas dire fulgurante, marcheur de la première heure, vous l'avez dit, élu député du Nord il y a un peu plus de 2 ans, rapporteur des lois travail, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée. Ses collègues le présentent comme étant un gros bosseur, sérieux, mais qui peut être aussi cassant. C'est en tout cas le souvenir qu'il a pu laisser à certains délégués syndicaux du groupe Auchan, son ancien employeur. Laurent Pietraszewski succède aujourd'hui à un poids lourd en politique, habile négociateur avec les partenaires sociaux. Ce matin, lors de la passation de pouvoir, Laurent Pietraszewski s'est inscrit dans la continuité de Jean-Paul Delevoye en soulignant qu'il n'y aura pas de rupture dans son action.
Derrière l'expression passation de pouvoir, il y a l'idée d'une continuité au service de l'action publique, au service des projets. Cette continuité est ici indispensable pour poursuivre le dialogue social. Dialogue social auquel je crois intimement, auquel je suis profondément attaché et que j'aurai à cœur de promouvoir dans les prochaines heures auprès des partenaires sociaux.
Et pour son baptême du feu cet après-midi, le nouveau monsieur retraite du gouvernement retrouvera donc les centrales syndicales aux côtés d'Édouard Philippe, le Premier ministre, pour tenter de renouer le fil du dialogue et débloquer la situation avant les fêtes de fin d'année.
Alors il y a tout de même un hic, Pierre, puisque selon René Dosière, l'ancien député spécialiste des finances publiques, la déclaration d'intérêt du nouveau monsieur retraite du gouvernement ne serait pas tout à fait claire.
Alors, si l'on examine la toute première déclaration d'intérêt et d'activité du nouveau député du Nord, Laurent Pietraszewski, on est au mois d'août 2017, on y apprend qu'il était salarié du groupe Auchan jusqu'à son élection à l'Assemblée nationale. Il déclare alors son activité au département des ressources humaines ainsi que ses 5 dernières années de rémunération. Mais ce qui interroge, c'est sa déclaration rectificative du 6 octobre dernier. Laurent Pietraszewski précise avoir touché la somme de 71 872 euros du groupe Auchan pour la période août-septembre 2019. D'où cette interrogation légitime. A-t-il effectué une mission pour le compte de son ancien employeur alors qu'il siège au Palais Bourbon? Pressé de questions ce matin, le groupe Auchan s'explique. Laurent Pietraszewski a perçu une indemnité de licenciement en paiement différé. Tout serait donc légal. En apportant cette précision dans sa déclaration d'intérêt et d'activité, Laurent Pietraszewski n'a fait que se mettre en conformité avec la loi de 2013.
Merci Pierre Neveu. Alors cette nomination intervient, on l'a dit, au lendemain d'une troisième journée de grève et de manifestation qui ont réuni plus de 600 000 personnes partout en France, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. En très net rebond donc par rapport à la semaine dernière, mais en deçà de la première journée du 5 décembre. Quoi qu'il en soit, dans la foulée, l'intersyndicale a aussitôt appeler à une nouvelle mobilisation demain, mais aussi balayer l'hypothèse d'une trêve pour les fêtes de fin d'année. Les syndicats les plus contestataires, CGT en tête, continuent à réclamer le retrait pur et simple de la réforme, tandis que les centrales réformistes, dont la CFDT, ne rejettent, elles, qu'une partie des mesures gouvernementales, et en premier lieu, l'instauration d'un âge pivot à 64 ans. Alors, Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors, tous les syndicats qui étaient ensemble dans la rue hier seront à nouveau tous réunis cet après-midi, mais à Matignon. Cette fois-ci, les leaders syndicaux et patronaux ont rendez-vous, chacun leur tour avec le Premier ministre, des entretiens qui se succéderont au pas de charge toutes les 50 minutes, très précisément. Or, en amont donc de ce nouveau round de négociation, eh bien l'Élysée a visiblement choisi ce matin l'heure de donner le ton en laissant entendre que des améliorations étaient possibles, en particulier autour de l'âge pivot.
Oui, c'est ce qu'indique effectivement son entourage, même si sur le fond, le chef de l'État n'abandonnera pas le projet et ne le dénaturera pas non plus, affirme l'Élysée. Alors à propos de l'âge pivot, plusieurs pistes sont évoquées ces dernières heures. Donner un an aux partenaires sociaux pour trouver des solutions alternatives ou encore établir un âge pivot différencié selon des critères notamment de pénibilité. Des concessions pour rallier le premier syndicat de France qui défend sur le fond le futur système à points et qui a fait de cet âge d'équilibre une ligne rouge. Laurent Berger a toutefois allumé un autre feu en proposant à la place de cet âge pivot une hausse des cotisations. Pas question, dit ce matin le président du MEDEF dans les colonnes du Figaro. C'est ma ligne rouge, explique Geoffroy Roux de Bézieux. Alors on verra comment le gouvernement résout l'équation. À noter qu'il mène aussi en parallèle des négociations avec les syndicats réformistes de la SNCF et de la RATP. CFDT et UNSA. L'UNSA ferroviaire, reçue d'ailleurs cet après-midi par le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari. L'enjeu, c'est de voir comment préserver un haut niveau de pension pour les cheminots. Le calendrier est serré. L'Élysée attend des avancées d'ici la fin de semaine avec un objectif, obtenir une trêve pour les fêtes de fin d'année.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors à une semaine tout juste de Noël, c'est peu de dire que le temps presse, d'autant plus que la grève se poursuit dans les transports en commun, entraînant toujours de fortes perturbations du trafic à la RATP et à la SNCF, dont les dirigeants d'ailleurs doivent eux aussi être reçus par le Premier ministre. Ce sera ce soir. Puis je précise par ailleurs que la compagnie ferroviaire a affirmé hier qu'elle pourrait transporter ce week-end tous les passagers ayant déjà réservé un billet TGV. Et pour continuer donc d'évoquer ce dossier consacré à la réforme des retraites, invité de la rédaction aujourd'hui, Patrick Mignola, député de Savoie et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Première question monsieur Mignola, votre nom était cité parmi les possibles successeurs de Jean-Paul Delevoye. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir été retenu ou au contraire peut-être soulagé?
Ah non, ma tâche, vous savez, c'est de travailler à ce qu'à l'Assemblée nationale, on continue à avoir une majorité parlementaire solide et qui réforme. Et on en a trop souffert dans notre pays d'avoir des quinquennats qui durent 2 ans. C'est peut-être pour ça que les choses vont pas très bien dans tous les domaines. Et donc nous, il faut qu'on travaille pendant 5 ans. Et ma tâche, c'est avant tout celle-là, président de groupe à l'Assemblée nationale, c'est déjà formidable.
Question de Rosalie Lafarge.
Et donc Laurent Pietraszewski, c'est le bon choix?
Je crois que c'est un très bon choix parce qu'il a la carrure technique, personnel, puis son expérience professionnelle le prouve. On l'a vu agir sur le code du travail, puis je crois qu'il a aussi l'humanité. Et il est capable de travailler avec les syndicats pour trouver le chemin que désormais on doit tous chercher.
Et vous qui avez travaillé avec lui à l'Assemblée nationale, il est plutôt du genre bon soldat ou quand même un peu manœuvrier, il va pouvoir faire quelque chose?
Ah, je crois que de toute façon, il sait très bien ce qu'est le travail du Parlement. C'est-à-dire, le gouvernement a fixé une loi cadre, et il faudra qu'ensuite au Parlement, à partir du mois de février, on soit capable de faire évoluer le texte qui nous sera soumis. Il évoluera à la fois sous l'influence des députés, ceux qui influenceront aussi, ce sont les syndicats. Parce que les parlementaires de la majorité, et ceux des oppositions, auront aussi à s'inspirer du travail qui sera fait avec les acteurs sociaux, et c'est ainsi qu'on apportera des garanties aux Français.
Mais on le disait tout à l'heure, l'exécutif là opte pour un profil un peu à l'opposé de celui de Jean-Paul Delevoye, qui était un pur produit politique. Est-ce que ça veut dire que Matignon reprend la main complètement?
Non, il faut que sur une réforme comme celle-là, qui est très compliquée, qui est très technique, et c'est pour ça que c'était difficile à aborder pour les Français il y a quelques semaines, il faut que sur un projet comme celui-là, on ait quelqu'un qui connaisse si bien la technique qu'il est capable ensuite de faire des arbitrages politiques.
Et donc il va falloir lui trouver un remplaçant pour porter le texte à l'Assemblée.
Oui, sans doute. Bon, on regardera au sein du groupe LREM et puis au sein du groupe MEDEM. Nous, on avait travaillé ensemble, vous savez, avec Pietra. Enfin non, faut pas que je l'appelle Pietra, parce que Pietra, surtout à France Culture, c'est une autre forme de chorégraphie. Mais on avait travaillé avec lui sur le code du travail. J'avais vu aussi Aurélien Taché, qui avait beaucoup travaillé à ce moment-là. Pourquoi pas lui ? Il y a Brigitte Bourguignon, qui est la présidente de la commission des affaires sociales. Contrairement à ce que les uns et les autres pourraient laisser à croire, il y a au sein de la majorité présidentielle des néo-députés, mais des néo-députés de qualité.
Ces interrogations qui sont venues juste après ce choix de Laurent Pietraszewski, tout le monde est allé regarder finalement sa déclaration d'intérêt et tout de suite, ces 71 000 euros ont posé question. C'est dur la transparence en politique ?
Oui, c'est dur parce que je crois que les Français étaient assez satisfaits que dès notre arrivée, on prenne de grandes lois sur la moralisation et sur la transparence en politique. Mais vouloir la transparence, c'est pas mettre un coup de baguette magique pour qu'il n'y ait plus de problème, au contraire. C'est imposer que tout le monde déclare, que tout le monde montre ce qu'il fait. En l'occurrence, Laurent Pietraszewski. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a quitté son emploi et il a bénéficié du droit du travail comme les autres. Et les politiques sont pas au-dessus des lois, ils sont pas en dessous des lois non plus. Quand on quitte son emploi parce qu'on ne peut plus l'occuper, signer une rupture conventionnelle et toucher une indemnité de licenciement, c'est comme tous les Français. Nous sommes comme tous les Français.
Alors on le disait également, l'Élysée dit ce matin qu'une amélioration est possible autour de l'âge pivot. Ça veut dire quoi ? On a brandi cet âge d'équilibre pour en faire finalement le point de fixation et derrière on dit d'accord pour revenir dessus. C'est comme ça qu'on récupère la CFDT ?
Non. On a fixé l'âge pivot parce qu'il fallait redonner confiance en les Français. Je crois qu'il y a une crise de la parole publique dans notre pays et on a beaucoup entendu « mais vous savez, ce qu'un gouvernement a fait, un autre pourrait le défaire et donc peut-être que la valeur du point, le niveau des pensions, tout ce que vous nous promettez sur les petites retraites, sur les femmes, sur les carrières hachées, finalement vous le ferez pas ou d'autres pourraient le défaire ». La première garantie qu'on apporte, c'est la loi. La deuxième garantie qu'on apporte, c'est la gestion par les partenaires sociaux. La troisième garantie qu'il faut apporter, c'est la solidité budgétaire du système. Et donc, accepter de travailler, de quoi parle-t-on ? 6 mois de plus. C'est pas agréable. Forcément, c'est pas agréable. Mais ça permet la solidité du système. Alors pour autant, faut qu'on soit capable aujourd'hui d'entendre ce qui remonte du terrain, d'entendre ce qui remonte de la rue, hier encore, et de se dire que ça sert à rien de s'obséder sur un âge pivot alors qu'au fond, il pourrait y en avoir plusieurs. Et selon la pénibilité, selon sa carrière, selon son métier, il peut y avoir plusieurs âges pivots différents. C'est sans doute ça le chemin pour qu'on trouve un consensus.
Mais il y a entendre et il y a prendre en compte. Ce qui se dit dans la rue, ce qui se dit chez les syndicats. Est-ce que ces réunions qui sont prévues cet après-midi, c'est vraiment de la négociation ou c'est encore pour dire on concerte, on met tout le monde autour de la table, mais derrière on fera ce qu'on veut ?
Non, je crois que le Premier ministre a mis beaucoup de choses sur la table. Quand il dit on peut, autour de l'âge pivot, parler de la pénibilité, parler des carrières longues, ceux qui sont rentrés tôt sur le marché du travail, parler de la fin de carrière professionnelle, et donc se dire que demain il peut y avoir un âge pivot qui se module, c'est la vraie avancée sociale de cette réforme. Ce serait de se dire, non pas est-ce qu'on travaille 6 mois de plus ou 6 mois de moins, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces 10 dernières années de carrière professionnelle ? À 55 ans, on est au summum de sa compétence professionnelle, mais pas au summum de sa capacité physique. Et bien travailler un peu moins, pour pouvoir transmettre une partie de sa compétence. L'économie française, c'est une économie de compétences. Et ne pas être dans une situation où quand on part à la retraite, on sort la bouteille d'Oasis, on met les olives, et puis on rentre chez soi et on s'est dit, finalement, j'ai rien transmis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et bien, être capable de prendre en compte cette fin de carrière professionnelle, cette capacité à transmettre, c'est une façon probablement d'assouplir, d'adoucir, de rendre acceptable le fait qu'on travaille tous un peu plus longtemps dans notre pays.
Merci Patrick Mignola, député de Savoie, je le rappelle, et président donc du groupe MoDem à l'Assemblée nationale d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Rosalie Lafarge. Quand l'histoire se répète au procès pour fraude fiscale des époux Balkany jugés en appel ce matin, l'avocate générale a requis des peines de 4 ans de prison ferme à l'encontre du baron des Hauts-de-Seine, incarcéré depuis le 13 septembre dernier, et 4 ans de prison, dont 2 fermes cette fois-ci à l'encontre de sa femme. Par ailleurs, une peine d'inéligibilité de 10 ans a également été requise à l'encontre du maire de Levallois-Perret et de sa première adjointe. Ou dit autrement, Florence Turme, des peines conformes à celles prononcées déjà en première instance devant le tribunal correctionnel.
Une fraude massive, organisée, réitérée, qui confine à l'arrogance fiscale. Sans surprise, le réquisitoire des avocats généraux de la Cour d'appel vient faire écho à celui prononcé lors du procès de première instance devant le tribunal correctionnel. Isabelle Balkany, bloquée dans les embouteillages, est arrivée en cours d'audience sur la pointe des pieds. Silencieuse, son avocat l'avait prévenue de ne pas interrompre les magistrats, comme elle l'avait fait hier durant la plaidoirie de la partie civile. Silencieuse donc sur le banc des prévenus, mais secouant parfois la tête en signe de déni. Il ne s'agit pas d'erreur, d'ignorance, de négligence, martèle l'avocate générale Muriel Fusina en reprenant les termes utilisés par la prévenue avec véhémence, mais bien d'une fraude intentionnelle. Au passage, elle fustige également les déclarations répétées d'Isabelle Balkany soutenant qu'il ne s'agit pas de détournement d'argent public, alors qu'ils se sont mécaniquement enrichis en éludant l'impôt qui devait abonder les finances publiques, insiste la magistrate. Au total, plus de 4 millions d'euros, d'où l'impérieuse nécessité, l'ardente obligation, dit-elle, de requérir des peines lourdes et significatives. 4 ans d'emprisonnement ferme pour Patrick Balkany avec maintien en détention, 4 ans dont 2 avec sursis pour Isabelle Balkany et pour tous les deux 10 ans d'inéligibilité. Réquisition identique à celle prononcée en première instance, mais Muriel Fusina y ajoute l'exécution provisoire de ces peines d'inéligibilité. Si elle était prononcée, elle empêcherait les époux Balkany de se présenter aux prochaines municipales.
Leur rapprochement avait été présenté fin octobre et 2 mois plus tard à peine, voici donc venu les fiançailles dans un communiqué conjoint. Les constructeurs automobiles français PSA et italo-américain Fiat Chrysler ont annoncé ce matin avoir signé un accord en vue d'une fusion entre égaux de leurs activités. Alors le mariage officiel ne devrait lui pas intervenir avant 12 à 15 mois, le temps de concevoir cette nouvelle entité de plus de 400 000 salariés destinée à faire naître le numéro 4 mondial du secteur. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors selon les deux partenaires, le fruit de leur union devrait leur permettre d'économiser en pleine année 3,7 milliards d'euros, ou dit autrement en termes économique, de générer des synergies, un vocabulaire à la connotation souvent négative tant il est généralement associé à des licenciements, même si en l'occurrence, Hakim, les deux groupes l'assurent, aucune fermeture d'usine ne sera liée à cette transaction.
Oui, si PSA ne prévoit pas de fermeture de site, les syndicats restent prudents, car un site peut très bien rester ouvert, mais faire l'objet de baisses d'effectifs, comme nous l'a indiqué la CFE-CGC que nous avons contacté ce matin, qui avec les autres syndicats négocie actuellement le nouveau plan de compétitivité pour 2022. La direction s'engage pour l'instant à baisser que de 5% les gains de compétitivité liés à la recherche et au développement. C'est surtout du côté des postes dans le tertiaire, comme le marketing ou l'administratif, que les partenaires sociaux sont plus inquiets à cause des doublons que va engendrer la nouvelle fusion. D'autant que si Carlos Tabarès, le PDG de PSA, a remis l'entreprise dans le vert, qui était au bord de la faillite en 2013, rappelons-le, c'est aussi en supprimant des milliers de postes en France à travers 2 plans de restructuration Push to Pass et Back in the Race, auxquels il faut ajouter, Thomas, 6000 suppressions avec l'acquisition de l'allemand Opel. Du coup, il faudra aussi rester prudent du côté de l'Italie, qui reste aussi dans le collimateur. En effet, les 5 sites de Fiat sont surdimensionnés à hauteur de 33% et les ventes ont chuté de 20% l'année dernière en Italie pour Fiat. Pour autant, la bonne santé des marques américaines de la nouvelle entité, comme Jeep, Chrysler, Dodge ou Ram, sont un bon point. Bénéficiaires, elles vont apporter beaucoup de cash à la nouvelle entité, une nouvelle entité qui emploiera plus de 400 000 personnes.
Merci Hakim Kasmi. Si en décidant de geler la production de son modèle 737 Max pour une durée indéterminée à partir de janvier, le constructeur américain Boeing devrait entraîner avec lui dans sa chute un ensemble de sous-traitants dont d'ailleurs le français Safran. En revanche, rien ne dit que les difficultés de l'avionneur américain profiteront à son concurrent direct Airbus, tout d'abord parce que le groupe européen croule déjà sous les commandes et puis surtout la faiblesse de Boeing pourrait même au contraire toucher les bénéfices engrangés par Airbus. Pourquoi ? Parce que Boeing vend ses avions très peu cher, ce qui obligerait à terme l'avionneur européen à tirer ses tarifs vers le bas. Si chacun aurait sans doute ses propres raisons de considérer que Donald Trump gardera une place à part dans l'histoire, dirigeant atypique et génial pour les uns, simple locataire de la Maison Blanche, provocateur et outrancier pour les autres, il est en revanche un fait certain, à partir d'aujourd'hui, il restera pour la postérité comme le troisième président des États-Unis mis en accusation en vue d'une éventuelle destitution. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, doit en effet se réunir dans la journée pour un débat qui mènera a priori au vote des deux articles de mise en accusation visant le président républicain, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Ce faisant, il reviendra ensuite au Sénat, aux mains cette fois-ci des Républicains, d'organiser le procès du président, probablement en janvier prochain, étant entendu que ces derniers ont déjà prévenu que Donald Trump serait acquitté. Voilà donc pour le scénario écrit à l'avance. Reste qu'anticipant ce nouvel épisode d'une présidence décidément en tout point extraordinaire, le milliardaire républicain s'est insurgé hier contre ses adversaires dans un courrier au vitriol adressé à la chef des démocrates au Congrès. Le chef de la Maison Blanche accuse Nancy Pelosi de se livrer à une guerre ouverte contre la démocratie américaine. Et pourtant, les enjeux donc de ce vote sont bien plus symboliques que véritablement menaçants pour Donald Trump, ainsi que l'explique l'historien Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, interrogé par Claude Guibal.
La lettre, très agressive et inédite par ce ton que Donald Trump, président, a envoyé hier soir à Nancy Pelosi, speaker démocrate de la Chambre, vient clore une séquence de l'enquête en impeachment qui a encore accru le clivage entre républicains et démocrates. Et c'est d'ores et déjà une des principales leçons de cette procédure en impeachment. Les lignes partisanes n'ont absolument pas bougé, elles n'ont fait que se renforcer. Aujourd'hui, Donald Trump, d'après tous les sondages, est soutenu par 90 à 93% des républicains. Il est considéré comme la victime d'une cabale politique des démocrates. Et c'est cet argument d'ailleurs qu'il a mis en avant hier dans sa lettre à Pelosi. Inversement, les démocrates se sont ralliés assez massivement, et à quelques exceptions près, derrière cette procédure de mise en accusation de Donald Trump, considéré comme un président qui abaisse la fonction présidentielle et menace la démocratie. Un révélateur donc que cette procédure en impeachment d'une division dont on a bien du mal à voir comment elle pourrait se résorber par la seule élection 2020.
L'historien Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, il était interrogé par Claude Guibal. Toujours aux États-Unis, le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric va devoir payer près de 1,7 milliard de dollars de pénalités au titre de sa responsabilité dans des feux de forêt dévastateurs en Californie. C'était en 2007 et 2018. Incendie faisant plus d'une centaine de morts au total, soit les plus meurtriers de l'histoire de l'État. Selon le projet d'accord dévoilé hier, l'opérateur s'engagerait à consacrer la somme à l'amélioration de la maintenance de ses installations électriques défectueuses à l'origine de ces incendies meurtriers, mais aussi à des mesures de lutte contre les feux de forêt. Alors, en matière justement de feux de forêt, si l'année 2019 aura été dans la moyenne, en revanche, leur intensité aura été sans précédent en termes de localisation, d'échelle et de durée, notamment dans des régions a priori insoupçonnées comme la Sibérie, l'Alaska ou le Groenland. On se souvient également des incendies qui ont ravagé une partie de l'Amazonie brésilienne et ont causé les émissions les plus importantes depuis 2010. Enfin, en Australie, là-bas, au moins 3 millions d'hectares sont déjà partis en fumée dans tout le pays. Et 6 personnes ont péri dans des centaines de feux ces derniers mois, y compris un gigantesque incendie d'ailleurs qui brûle toujours au nord de Sydney. Véronique Robert-Roth, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est dans ce contexte que l'on a appris que la journée d'hier en Australie avait été la plus chaude depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale des températures maximales mesurées à plus de 40 degrés. Une vague de chaleur qui pourrait même encore être dépassée dans les prochains jours, risquant du coup, Véronique, d'attiser les dramatiques feux de forêt qui ravagent le pays.
Les feux et les problèmes aussi respiratoires de tous ceux qui habitent Sydney ou en périphérie. Depuis plusieurs semaines, la plus grande ville d'Australie est enveloppée par des fumées toxiques liées à ces incendies qui ravagent donc l'est du pays depuis 3 mois. En début de semaine, les autorités médicales d'Australie, 25 000 médecins et internes, en ont appelé au gouvernement pour qu'il s'attaque à cette pollution atmosphérique toxique. Les problèmes respiratoires sont en hausse de 80%. Manifestations annulées, bateaux à quai, écoliers bloqués chez eux. Tout l'est de l'Australie vit en ce ce moment au ralenti. 20 000 personnes étaient dans les rues il y a une semaine à Sydney à l'appel de l'Alliance pour le climat et la santé pour réclamer au gouvernement des actions urgentes contre le réchauffement climatique. Dans le même temps, la COP25 se terminait à Madrid sans avoir acté la moindre action urgente à cause justement de pays comme le Brésil, les États-Unis et l'Australie ouvertement climato-sceptiques ou presque. Fait nouveau, fait rare, le premier ministre australien a tout de même reconnu que le réchauffement climatique était sûrement un des facteurs à l'origine de ces incendies dévastateurs, meurtriers, vous l'avez dit. Le premier ministre Scott Morrison a toutefois défendu le bilan de l'Australie en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il n'y aura pas donc de mesures supplémentaires, de rehausse de l'ambition, comme l'on dit, dans les négociations sur le climat. Le scénario en tout cas est tout écrit, le prochain, les sécheresses successives, intenses, qui reviennent chaque année, fragilisent la forêt, la moindre étincelle donc se propage dans des forêts avec une intensité sans précédent en Australie, comme dans bien d'autres pays, vous l'avez dit tout à l'heure.
Merci Véronique Robert-Roth. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec des pluies temporairement modérées sur le Languedoc et la Côte d'Azur. Sur l'est de la Corse, là, le temps sera plus instable avec des averses localement orageuses. Et puis sur l'ouest du pays, cette fois-ci, le ciel se chargera rapidement avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne. Partout ailleurs, en revanche, les nuages laisseront percer quelques éclaircies quant aux températures. Elles afficheront entre 10 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.